Eh bien, Monique, quel plaisir de vous retrouver à nouveau en ce grand mois de juillet où vous allez nous parler. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Eh bien, puisque je ne suis pas d'accord, je ne dirai rien. Allez, allez-y, parlez-nous de juillet.
Oui, bonjour Pierre. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec mon texte, mais c'est égal. Je vais en faire part à nos amis francophones. C'était un soir quelconque de l'année 2012. Franchement, je ne me souviens plus ni du jour ni du mois. La mémoire est sélective et cherche à brouiller certains souvenirs. Je sais surtout que ce soir-là, j'étais triste. Un peu de blues, rien à voir heureusement avec de la dépression. Il me vint alors à l'esprit un extrait d'un poème de Verlaine. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Comme toujours, quand je veux m'évader du présent, je me replonge dans le passé en feuilletant à nouveau les albums de famille. Quand je dis album, je pêche par exagération. En fait, toutes mes photos sont gardées en vrac dans des cartons à chaussures, sur le couvercle desquels on peut lire au crayon feutre France ou bien Majorque, selon une répartition géographique très simpliste. Je tombe sur une photo insolite. Elle a été prise le 21 juillet 1969 et l'on y voit mon fils Alain, de 3 ans à l'époque, devant un écran de télévision, en noir et blanc bien sûr, où est retransmis le décollage d'Apollo 12 en direction de notre satellite, cette bonne lune qui nous montre toujours sa même face, soit en plein, soit en quart croissant ou décroissant. Curieusement, sur cette photo, mon fils pose son index droit sur le visage comme pour signifier mon œil. Ce geste involontaire d'incrédulité a pris un peu de réalité le 8 juillet 2011, puisque le transbordeur Atlantis décollait sans gloire de Cap Kennedy, anciennement Cap Canaveral, pour un tout dernier vol, la fin de l'odyssée spatiale américaine en solitaire. J'ai été surprise alors du peu d'impact sur les médias. 2 lignes dans les journaux, une brève mention à la télévision, et c'est tout. Et pourtant, souvenons-nous les anciens, il y a 46 ans, le voyage à la Lune non seulement représentait un exploit titanique en lui-même, mais augurait une étape brillante dans la découverte glorieuse d'autres mondes. L'imagination populaire était encore dopée par le propre Werner von Braun, le scientifique allemand nationalisé américain en 1955, qui avait créé la fusée Saturne V pour propulser le module Apollo 12 dans son voyage et débarquement sur la Lune. Werner von Braun assurait qu'aux environs de 1980, il y aurait des cosmonautes sur Mars. La planète rouge, sans petits bonshommes verts, comme nous le faisaient croire les vieux récits de science-fiction. Si le savant le plus prestigieux de l'époque l'affirmait, qui donc allait lui répliquer le contraire? C'était tout simplement impensable. En peu de temps, toujours selon lui, on allait construire des bases permanentes sur la Lune, et depuis celle-ci, en profitant de la gravité moindre de notre satellite, il serait très, très facile de lancer des vols dans notre espace lointain à des années-lumière de la Terre. L'euphorie du moment faisait oublier que ce même von Braun avait dirigé le programme des terribles bombardements allemands sur Londres avec les V1 et les V2. Quand l'excitation populaire se concentre sur le futur, le passé, même relativement récent, n'a plus d'importance. Et dans ces années 60 du siècle dernier, l'avenir se présentait plus merveilleux que jamais grâce aux prodiges à venir. Et quel meilleur moyen d'évasion que de se projeter en imagination vers des mondes inconnus. Les Américains, surtout, nécessitaient alors à tout prix le baume de la mystification d'une arrivée sur la Lune. De son côté, le cinéma, toujours à l'affût de thèmes démagogiques, nous bombardait de films alimentant inconsciemment nos divagations, comme « La guerre des étoiles », « E.T. » et surtout « L'Odyssée de l'espace 2001 » de Stanley Kubrick. Quelque chose de magique. C'était la première année du premier siècle du nouveau millénaire. De quoi enflammer les superstitions et nous faire croire que se réaliseraient toutes nos fantaisies dans la conquête immédiate d'autres dimensions. Plus fort encore comme Héliès et sa fusée dans l'œil droit de notre bonne lune, toute suffoquée. On le saurait à moins. Juste 10 ans après ce 2001, qui nous paraît déjà vieux dans les calendriers, l'ère spatiale, démagogique, s'est terminée sans plus avec le tout dernier vol, le 8 juillet 2011, du transbordeur américain Atlantis, comme je l'ai déjà souligné plus haut. Ça a été la finale du futur en comique, à la Tintin et Milou. D'ailleurs, j'en suis même arrivé à l'idée, discutable certes, que la NASA, pour construire Apollo 12, s'était inspirée des albums d'Hergé, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, et dont la parution a été antérieure à l'expédition américaine vers notre satellite. Dans l'un de ces albums, les frères Dupont, avec leur logique caractéristique, constatent: et comment sait-on qu'il n'y a personne sur la Lune puisque personne n'y est jamais venu? C'est un raisonnement comme un autre. J'insiste, mais je peux me tromper. Que tout le projet Apollo fût un montage, voire une extravagance publicitaire orchestrée par les propagandistes des USA, très forts en marketing. N'oublions pas qu'en 1969, les Américains étaient en pleine guerre froide et rivalité technologique avec les Soviétiques qui, eux, les premiers, avaient lancé un satellite artificiel, le Spoutnik, en orbite autour de la Lune. Il fallait faire mieux à tout prix et surtout le faire croire. Entre nous, je n'en reviens toujours pas de la facilité, comme dans du sable, avec laquelle Armstrong a planté le drapeau Star and Stripes, qui s'est mis à ondoyer dans une atmosphère sans un souffle d'air. Pas très crédible.
Au secours ! Hérésie ! Hérésie !
Parlons d'atmosphère, je repense au vieux et beau film « Hôtel du Nord » quand Jean Gabin confie à sa maîtresse Arletty qu'il veut changer d'atmosphère. La réponse gouailleuse d'Arletty ne se fait pas attendre.
J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Cette réplique absurde est restée dans la mémoire cinématographique de toute ma génération. À partir de maintenant, les découvertes spatiales appartiennent à la science et ne sont plus utilisés pour enfiévrer l'imagination des peuples à des fins politiques, qui d'ailleurs n'ont plus de sens, puisque Russes et Américains collaborent désormais dans les projets galactiques. Il faut se rendre à l'évidence. Après le soi-disant alunissage d'Apollo 12, nous savons que certaines fantaisies humaines resteront des fantaisies. Je doute que prochainement il y aura des traces de l'homme sur les sables rouges de Mars, peut-être même que personne d'autre ne marchera sur la Lune ou, de toute façon, ne se sont pas construites de bases permanentes. Encore faut-il qu'Armstrong et Aldrin aient marché pour de vrai « on the moon ».
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Ces échecs d'illusions pourtant bien ancrés un certain temps sont là pour nous rappeler que le progrès a ses limites, ainsi que la candeur économique avec laquelle nous envisagions le futur dans les années 60-70, nous qui vivons dans des zones du monde privilégiées, mais jusqu'à quand? Rendons-nous à la réalité pure et dure. La Terre est pour longtemps encore notre unique planète où survivre. Si nous la détruisons, nous n'en avons pas de rechange. L'être humain est vraiment un sac à poubelle de contradictions. D'une part, il rêve d'une vie complètement artificielle sur une autre planète, Mars en l'occurrence. D'autre part, il prêche le retour à une existence sur la Terre moins technologique et plus en accord avec la nature. Allez-y comprendre quelque chose. Personnellement, je préfère être dans la Lune, c'est-à-dire me payer des moments de rêvasserie à la Lamartine, plutôt que d'être sur la Lune, où, franchement, je n'ai rien à y foutre. Laissons à notre satellite l'auréole romantique qu'on lui a toujours prêtée en littérature ou en chanson.
La Lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La Lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La Lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine.
Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, a dit Armstrong. Tu parles. Un grand pas pour l'humanité sera le jour où plus personne ne souffrira ni de la faim ni de la guerre. La science doit être au service de l'homme, mais surtout pas le contraire. Sinon, on en arrive à des expériences dangereuses pour les individus qui servent de cobayes, volontaires ou forcés. Souvenons-nous des travaux scientifiques du triste docteur allemand Mengel sur les déportés juifs. C'est abominable. En reparlant du programme Apollo, mon fils, qui, le 21 juillet 69, semblait vouloir dire « mon œil » avec son index sur le visage, et n'est pas d'accord avec moi. Pour lui, oui, il y a eu débarquement et marche sur la Lune. Il se base sur un simple raisonnement. Si, dans les années 1940, Wernher von Braun avait déjà suffisamment de connaissances technologiques pour envoyer les V1 et les V2 sur Londres, plus tard, en 1969, avec l'aide financière américaine, il était tout à fait capable de réaliser la prouesse de Saturne V et Apollo 12. Pourquoi pas, après tout ? La superficie de notre bonne Lune est criblée de cratères parfaitement arrondis et peu profonds que les scientifiques dénomment des cirques. Ces cirques-là ne recherchent pas de clowns, donc pourquoi vouloir y aller ?
Merci Monique, c'était votre opinion. Vous ne m'avez pas convaincu, cher ami, mais merci beaucoup de nous avoir transmis vos doutes pour mettre en doute nos certitudes.
Oui, ben voilà, Pierre, pourquoi pas. La radio Titoyetta est plurale et on accepte toutes les opinions. Bien sûr, il faut encore savoir les défendre avec des arguments plausibles.
Absolument. Merci beaucoup et on se retrouve en pleine chaleur, au mois d'août.
Bien sûr, Pierre, on se retrouve au mois d'août. À bientôt, chers amis francophones.
À bientôt, Monique. Merci.